Bonsoir. L'Assemblée nationale a débuté hier mardi l'examen du projet de loi portant l'impôt sur les sociétés et le revenu des personnes physiques en République démocratique du Congo, tout comme l'impôt portant réforme des procédures fiscales. D'après le ministre des Finances qui a fait l'économie de ce projet devant les députés, le système actuel d'imposition a l'inconvénient de ne pas faire la distinction entre la fiscalité des sociétés et celle des personnes physiques. C'est la raison pour laquelle, explique-t-il, cette réforme institue deux impôts distincts, l'impôt sur les sociétés et celui sur les personnes physiques. Après débat et délibération, les deux projets de loi devant entrer en vigueur en 2024 ont été déclarés recevables et envoyés à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. Que pensez-vous de ces deux projets relatifs à la fiscalité en République démocratique du Congo? C'est la question de base ce soir. Et pour en parler, nous serons avec Paulin Odiane, député national, membre de la commission PAJ à l'Assemblée nationale de la RDC. Paulin Odiane, bonsoir.
Bonsoir.
Mais également Francis Ngabo, bonsoir. Fabrice Ngabo, chercheur et consultant en fiscalité et finances, devrait pouvoir nous rejoindre d'un moment à l'autre. Et enfin, Al Kitenge, analyste, économiste et stratège. Al Kitenge, bonsoir.
Bonsoir.
À tous, bienvenue dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokaki.net.
L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a débuté hier mardi l'examen du projet de loi portant l'impôt sur les sociétés et les revenus des personnes physiques, tout comme l'impôt portant réforme des procédures fiscales. D'après le ministre des Finances qui a fait l'économie de ce projet, le système actuel d'imposition a l'inconvénient de ne pas faire la distinction entre la fiscalité des sociétés et celle des personnes physiques. C'est la raison pour laquelle, explique-t-il, cette réforme institue deux impôts distincts, l'impôt sur les sociétés et celui sur les personnes physiques. Après débat et délibération, les deux projets de loi devant entrer en vigueur en 2024 ont été déclarés recevables et envoyés à la commission ECOFIN. On écoute ici le ministre des Finances de la RDC, Nicolas Kazadi, au micro de Michel Kifinda.
Pour préparer ce grand changement qui sera apporté par cette loi sous examen, j'ai instruit la Direction générale des impôts pour que, dès le mois de mars 2023, chacun des citoyens congolais qui perçoit des revenus salariaux soumis à l'IPR ait l'obligation d'en faire une déclaration. Ça sera le premier pas, la préparation au changement plus important qui interviendra en 2024. L'arrêté a été signé déjà. En 2023, chacun d'entre nous, nous devrons déclarer ce que nous avons reçu comme salaire et ce que nous avons payé comme impôt. À l'heure actuelle, cela est fait globalement. L'année prochaine, cela sera fait individuellement. Je sollicite votre collaboration pour que nous montrions au monde que nous sommes des citoyens responsables et que nous sommes conscients des exigences de changement pour davantage affirmer notre responsabilité.
Notez qu'à partir de 2024, si les lois sont promulguées par le président de la République, les lois en relation avec les impôts dont on parle, l'État recouvrera désormais les revenus locatifs, des revenus de capitaux mobiliers et les revenus professionnels comprenant les rémunérations ainsi que les bénéfices et profits sur chaque habitant en République démocratique du Congo. Paulin Odiane, député national, membre de la commission PAJ à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, outre les explications que notre introduction vient de livrer, pensez-vous qu'il y a matière à ajouter pour mieux expliquer ces concepts au public qui nous suit? Qu'est-ce qui change vraiment ou qui changera dès l'application de ces lois pour les Congolais de la RDC?
Merci beaucoup pour la question. Je tiens d'abord à saluer les deux compatriotes qui sont associés à cette émission et à saluer également le présentateur de cette émission. Mais nous devons retenir d'abord que lorsqu'on parle d'une réforme fiscale, c'est tout simplement une modification qui est apportée par le gouvernement en matière de la législation fiscale. Donc c'est tout simplement pour établir une nouvelle structure du système. Et dans les cas d'espèce, le ministre a essayé de justifier cette réforme, mais moi personnellement, je n'ai pas bien compris vraiment le fond de cette réforme, parce que s'il faut établir la distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, donc ce n'est pas vraiment une réforme comme telle. Il faudra aller au fond du problème. Et quel est le but d'une réforme? Le but, c'est tout simplement d'abord d'optimiser la capacité de mobilisation des ressources internes pour le gouvernement. Et deuxièmement, c'est informer également les opérateurs économiques sur leurs droits et puis leurs obligations.
Paulin Odiane, vous semblez dire ici que vous ne sentez pas la nécessité de cette réforme. Mais est-ce que vous sentez la nécessité pour un pays d'avoir des lois sur des impositions, aussi bien pour les personnes que pour les sociétés? Et puis, si vous faites une réserve pendant cette émission, est-ce que vous avez fait cette réserve pendant les débats? Et est-ce que, qu'est-ce qui, selon vous, explique que finalement ces propositions ont été jugées reçues ou recevables, alors que quelqu'un comme vous semblait ne pas trouver là une certaine opportunité? Est-ce que vous vous êtes trouvé en minorité par rapport aux réalités? C'est beaucoup de questions à la fois, mais c'est important pour la compréhension de nos auditeurs.
Bon, vous savez très bien qu'il y a plusieurs présentateurs au niveau de notre chambre. Et puis, j'étais ici à préciser que hier, lorsqu'on faisait le débat, je n'ai pas pu prendre parole parce que tous les intervenants qui sont passés avant moi ont pu ramasser mes préoccupations, notamment honorable Sessanga et les autres. Je ne pouvais plus y revenir, c'est ainsi que j'ai tout simplement demandé au bureau de ne pas intervenir.
Alors, quelle est vraiment, de manière très claire, hein, votre réserve à ce sujet, votre réserve aussi, celle de ceux qui ont partagé votre avis? Le problème, c'est quoi? Vous ne voulez pas qu'il y ait ces impôts en République démocratique du Congo, ou vous trouvez que le moment n'est pas bien choisi?
Alors, il fallait vraiment approfondir la réforme, parce que vous savez, le Congo, nous avons un sérieux problème au niveau de la mobilisation des recettes publiques, qui sont d'ailleurs dues à des multiples plaisanteurs. Et c'est limité uniquement à un seul aspect, n'est pas du tout commode, et il fallait approfondir, comme je viens de le dire. Et si nous faisons la différence entre la personne morale et la personne physique, c'est vraiment une réforme consistante, je ne crois pas. Et notre système fiscal pose énormément de problèmes, notamment à ceux qui sont appelés à appliquer la loi, c'est-à-dire ici à mobiliser les recettes, et le comportement également des politiques, le comportement les différents services de l'État, l'armée, la police, les services spécialisés, tous ces services-là constituent également un frein à la mobilisation des recettes de l'État dans les domaines fiscaux, parce que vous savez très bien qu'il y a des sociétés qui ne payent pratiquement rien à l'État, parce que ces sociétés soutenu par nos services spécialisés. Alors, comment allons-nous faire pour que ces services ne soient pas des frais à la mobilisation des recettes? Qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on a pris ça, le ministre n'a pas pris ça en compte? le ministre n'a pas pris en compte le comportement des politiques congolais, qui est à la base de différents pesanteurs.
Mais quelle est la réponse? Quelle est la réponse que vous avez déjà reçue jusqu'ici par rapport à ces questionnements que vous soulevez?
Il n'y a pas de justification claire à ce catastrophe. Il n'y a pas de justification. Et j'ai toujours dit, la fois passée, j'ai dit encore au ministre, que non, voilà, au premier ministre, ce que nous avons comme budget dans notre pays ne correspond pas à notre poids sur le plan démographique et sur le plan des ressources. Nous pouvions avoir un budget plus costaud que ça, mais on n'a pas ces budgets tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont là, qui exploitent le pays, qui ne payent rien. Je donne l'exemple des Chinois dans les provinces minières, la province du Haut-Uele, la province de Gualaba et certaines provinces de Kivu, tout ça. Tous ces Chinois qui exploitent sans payer quoi que ce soit à l'État et qui sont soutenus par les politiques. Donc, comment pouvons-nous mobiliser les recettes dans les domaines fiscaux si certaines personnes, si certaines sociétés ne payent pas les impôts? Et il n'y a pas de sanctions également contre ces gens. Là, vous savez, dans un pays, dans d'autres pays, comme au Japon, quelqu'un qui ne paye pas l'impôt est condamné à 12 ans de prison.
Pour la Odiane, merci. Nous vous gardons dans ce débat. Fabrice Ngabo, chercheur et consultant en fiscalité et finance. Quelle est, selon vous, quelle est à ce stade la réalité de la perception des impôts en République démocratique du Congo? Peut-on dire de manière globale qu'il y a des impôts que l'État congolais perçoit de la part des sociétés et des individus ou rien du tout à ce stade?
Bon, d'abord, merci monsieur le journaliste de la parole. Je tiens à saluer tous les co-débatteurs réunis autour de ce sujet et tous les auditeurs qui nous suivent ce soir. Je vais d'abord commencer par exprimer mon indignation, je veux dire ma désolation, par rapport à cette occasion qui a été ratée par le ministre, parce que, vous savez, la fiscalité ou le système fiscal, il est à considérer comme le cœur d'une nation, parce que c'est là que l'État doit trouver des moyens nécessaires pour répondre aux besoins de la population. Si aujourd'hui nous avons besoin que l'État soit à la hauteur de l'insécurité qu'il y a à l'Est, nous devons nous assurer que le système fiscal, il est organisé de manière à produire à l'État les moyens nécessaires. Et donc, je vais d'abord commencer par préciser que le domaine fiscal n'est pas un domaine politique. C'est un domaine technique qui est appuyé par des réflexions scientifiques pertinentes. Alors, cela étant, comme le premier intervenant l'a rappelé, je rappelle aussi que la réforme n'est rien d'autre qu'une modification des textes dans un domaine donné, mais qui poursuit certains objectifs en obéissant à certains critères. L'un des critères qui doivent présider à une comment l'impôt sur les sociétés, qu'on appelle dans notre jargon technique l'impôt sur les bénéfices et profits, comment il se perçoit, et comment l'impôt sur les revenus des individus se perçoit en RDC.
Est-ce que vous pouvez y aller? Vous avez la parole justement.
C'est mon problème.
Oui, allez-y un peu plus rapidement, on n'aura pas...
Il peut être résolu. Voyez-vous, monsieur le journaliste, mon regret, c'est de constater que, moi d'abord qui vous dis, je suis consultant dans plusieurs entreprises. Nous travaillons chaque jour sur les problèmes que connaissent les entreprises. Les problèmes sont connus et les solutions sont à envisager, sont connues des experts. Mais quand on a une bonne occasion comme ça pour pouvoir apporter des solutions à des problèmes qui mettent en difficulté l'entrepreneuriat, l'exploitation des entreprises, et qu'on aura cette occasion, ça ne peut être qu'un regret. Je commence de façon pédagogique à vous expliquer comment l'impôt sur les sociétés est perçu à l'RDC. Déjà, nous avons une ordonnance loi de 69, qui pose les jalons, les principes, et cette ordonnance a connu beaucoup de révisions, beaucoup de modifications jusqu'à ces jours. Et ces modifications sont telles que l'impôt sur les bénéfices sur les sociétés, le concept d'abord est tiré du droit WADA. C'est le droit WADA qui apporte le concept impôt sur les sociétés. Ce concept est tiré même du système fiscal français où on appelle l'impôt sur le bénéfice et le profit, on appelle l'impôt de société, c'est-à-dire l'impôt sur les résultats des entreprises, en termes simples. Qu'il s'agisse des entreprises sociétaires ou des entreprises qui ne sont pas sociétaires, c'est-à-dire des entreprises qui sont individuelles, ou autrement dit les personnes physiques. Hein? C'est-à-dire, moi je peux créer une entreprise comme individu, j'exploite comme individu, l'entreprise pour autant que elle exploite sur base d'un SFM, modèle de registre de commerce et crédit régulier. Vous me suivez?
Nous vous écoutons à essayer d'aller à l'essentiel parce que on n'aura pas tout le temps pour les détails. Allez-y.
L'impôt sur les sociétés existe en RDC sous le concept impôt sur les bénéfices et profits. Et il est perçu suivant les taux qui existent. Pour dire qu'il n'y a pas de problème, l'impôt est de 30%. Pour les grandes entreprises et les moyennes entreprises, l'impôt est de 1% sur les chiffres d'affaires. Pour les entreprises qualifiées de petites entreprises, et de 2% sur les chiffres d'affaires. Pour les mêmes entreprises qui exploitent les services, l'impôt est de 30% pour les micro-entreprises. Et donc, à ce stade-là, il n'y a pas de problème en ce qui concerne l'imposition sur les résultats des entreprises. En ce qui concerne les personnes physiques, nous avons l'impôt professionnel sur les rémunérations qui frappe les rémunérations dont bénéficient tous les citoyens qui travaillent dans des entreprises. Voyez-vous, le législateur a prévu aussi un autre impôt pour les autres citoyens qui ne travaillent pas dans les entreprises. Autrement dit, pour les autres citoyens qui ne sont pas contributeurs de l'impôt professionnel sur les rémunérations. Cet impôt-là, on l'appelle IPM, l'impôt personnel minimum. Cet impôt personnel minimum n'est pas à charge de l'État, c'est-à-dire du pouvoir central, ni des provinces, mais à charge des entités territoriales décentralisées, c'est-à-dire les communes, les chefferies et secteurs. J'exclus la ville comme ETD parce que déjà les communes sont incluses dans la ville.
Fabrice Ngabo, à ce stade, est-ce qu'à ce stade, l'État congolais perçoit ces différentes formes d'impôts, les 30%, les 1%, les 2%, ça c'est pour les entreprises, et surtout les impôts des personnes physiques, l'IPR et l'IPM. Est-ce que l'État congolais les perçoit? À quelle hauteur l'État congolais les perçoit-il? Et qu'est-ce que les lois dont a été question hier à l'Assemblée nationale apportent ou veulent apporter?
Et donc, je vous dis que l'État congolais perçoit ses impôts. Seulement au niveau des ETD qu'il y a cette difficulté, parce qu'on constate que j'ai mené une recherche en 2014 qui a révélé que beaucoup de communes en RDC, par exemple, ne perçoivent pas cet impôt à charge des citoyens qui ne sont pas contributeurs de l'IPR. Voyez-vous? Mais il y a d'autres ETD qui perçoivent cet impôt-là. Là, c'est un problème au niveau des ETD, mais de façon globale, les impôts qui sont prévus par l'ordonnance 169, donc les impôts sur les revenus, que ce soit sur les revenus professionnels ou sur les personnes physiques, les impôts sont perçus sans problème. Seulement, s'il est question d'apporter des modifications dans ce domaine-là, que ce soit parmi les règles de fond, parce que le code des impôts constitue des règles de fond et des règles de procédure. Alors, s'il faut apporter des modifications au niveau des règles de procédure, c'est voir comment aider l'État à ce que l'assiette fiscale de ces impôts-là soit élargie. C'est autrement dit, il existe beaucoup d'entreprises, beaucoup de revenus qui sont produits, qui sont réalisés dans notre économie, mais de façon informelle, autrement dit, qui échappent au contrôle des régies financières. C'est peut-être à ce niveau-là que le gouvernement devait intervenir avec des réformes pertinentes, des réformes opportunes, des réformes intelligentes pour pouvoir mettre la main sur ces revenus-là qui échappent au trésor public. Autrement dit, vous le savez aussi que beaucoup d'activités économiques, ou si vous voulez bien, la partie la plus importante de notre économie évolue dans l'informel. Comment ramener toutes ces activités-là vers les secteurs formels?
Fabrice Ngabo,
tout profit de ces revenus-là.
Fabrice Ngabo, est-ce que...
À ce niveau ici, allez-y.
Fabrice Ngabo, est-ce que ce n'est pas ce que compte faire les deux lois notamment qui ont été discutées hier au Parlement.
Non, pas du tout. Je suis désolé. Je me demande si le ministre vit ici en RDC. Il vit à Kinshasa. Il est au courant de l'évolution de la situation économique du pays. Est-il informé des problèmes réels auxquels sont confrontées les entreprises? Je vous donne un cas. Si réellement on doit, il est question de se pencher aux problèmes des entreprises, si il est réellement question de se pencher aux possibilités de recouvrement efficient des ressources pour l'État. Par exemple, si nous parlons des entreprises de petite taille, une entreprise qui, par exemple, doit payer un impôt sur les revenus de 80 000 francs. Mais on doit lui demander, par exemple, d'acheter les formulaires des états financiers au niveau du Conseil de la comptabilité au Congo, du CPCC, et par exemple, à 140 000 francs. Vous imaginez ça? On ne facilite pas l'entreprise, à cette catégorie d'entreprise la tâche. Il y a beaucoup de problèmes. D'ailleurs, les problèmes les plus importants dans ce secteur ici sont situés non seulement au niveau de l'aspect de l'élargissement de l'assiette imposable que j'ai évoqué tantôt, mais plutôt dans le domaine non fiscal.
Merci Fabrice Ngabo. Al Gitenge, analyste économique et stratège, quel est votre avis du travail qui a été discuté hier à l'Assemblée nationale concernant les impôts en République démocratique du Congo, et quelle est votre position par rapport à vos deux premiers co-débatteurs?
Je voudrais d'abord saluer mes deux co-débatteurs et je voudrais ici féliciter le ministre des Finances qui engage, et ce n'est pas la première fois, des réformes de fonds dans la finance publique dans notre pays qui est en fait dans un état suffisamment archaïque. Je pense que dans la construction d'une nation, on doit arriver à ce qu'on appelle un pacte citoyen, et le pacte citoyen a comme volet principal le pacte fiscal qui donne finalement les devoirs des citoyens, mais en contrepartie des droits que l'on appelle des services publics. C'est comme ça qu'on construit une nation. Et je crois que moi, si on me demandait mon avis, j'aurais pu dire, au lieu de faire une évolution de notre loi fiscale en faisant des réformes, on aurait dû remettre à plat notre système fiscal complètement, pour une simple raison. La pandémie de Covid-19 nous a instruit que nous étions en total déphasage avec les différentes visions du monde. Pourquoi je le dis? Notre pacte fiscal, notre loi fiscale, notre arsenal fiscal est une superposition des textes légaux qui ont commencé dans les années 30, qui des fois sont en totale contradiction avec notre vision du pays. Et je pense qu'il est important pour nous de pouvoir nous rendre compte que nous sommes un des rares pays où il y a des gens qui naissent et qui meurent sans avoir jamais volontairement payé le moindre impôt. On a également des gens qui ont une richesse très visible, qui est mesurable, mais qui ne payent absolument rien du tout. Et d'ailleurs, une des choses la plus gênante, c'est le business des hommes politiques. Eux, ils ont un statut spécial. Quand ils arrivent à l'aéroport, ils ne payent même pas les accès à l'aéroport. Ils ne payent pas les taxes qui sont censées être payées par des citoyens de tous les jours. Ils ont un statut complètement spécial et pendant un temps d'ailleurs, même les députés refusaient de payer l'impôt sur le revenu. Et je crois que c'est dans le cadre de la construction du citoyen et la construction de la nation que ces réformes sont en train d'être faites. Et je pense que le ministre des Finances mérite le soutien des citoyens, mais il faut qu'il s'explique davantage. Vous savez, nous sommes un pays où la grande partie de nos revenus revient des entreprises. Non, dans le monde entier, la grande partie des revenus de l'État viennent des citoyens, du travail des citoyens. Parce que finalement, les entreprises sont considérées comme les poules aux œufs d'or. Si vous les mettez sous pression, elles ne vont pas générer les emplois et les emplois ne vont pas générer des gens qui ont des capitaux pour être en mesure de dépenser dans l'économie. Je pense que une des choses fondamentales qu'il faut être en mesure de révéler ici, un des co-débatteurs l'a dit, c'est l'inacceptable situation dans laquelle où 90% de notre économie urbaine est dans l'informel et tout le monde regarde ça comme si c'était normal. Ce n'est pas du tout normal. La deuxième, c'est la fracture entre l'économie urbaine et l'économie rurale. Dans l'urbain, il y a un semblant d'organisation. Dans le rural, il n'y a absolument pas d'organisation. Et donc, le défi majeur sera, un, la digitalisation qui devra finalement consacrer à chaque citoyen un numéro d'impôt unique transversal
qui vous donne à la fois accès aux soins de santé, mais qui vous donne également accès à l'éducation gratuite pour vos enfants, et qui vous donne des droits dans l'administration publique pour que vous soyez en mesure de recevoir des services publics. Je crois que nous sommes là dans une situation où l'actuel ministre des Finances est en train de nous rappeler les éléments fondamentaux et cardinaux d'une nation.
Mais Al-Kitenge, dans le contexte dans lequel l'économie et la vie du quotidien des Congolais se présentent avec beaucoup de défis, avec beaucoup d'insuffisances, les salaires assez bas, le pouvoir d'achat qui s'est beaucoup amenuisé, et le fameux problème du manque de confiance entre les populations et les dirigeants, les populations accusant très régulièrement les dirigeants de ne pas déjà bien distribuer les ressources nationales, et en plus de ça, le peu que les gens arrivent à mettre pour le bien commun, ces ressources sont parfois volatilisées. Est-ce que c'est le moment de parler de cette problématique du paiement des impôts? C'est les populations qui vont les payer. Est-ce que c'est cohérent d'attendre quelque chose de cette loi par rapport justement aux besoins de la nation?
C'est absolument le moment parce que nous sommes en train de construire une nation. Regardez bien les choses qui arrivent. Nous sommes en train d'aller dans une pénétration administrative dans les 145 territoires. Donc l'État est en train d'aller à la rencontre des contribuables de nouvelles générations, des gens qui n'avaient jamais existé dans le système économique national, des gens que l'État ne connaissait pas et qui ne connaissaient pas l'État.
Al-Kitenge, à ce stade, quel mécanisme... Tout à fait.
Répondre à vos questions avant que vous me posiez une autre question.
Tout à fait, mais tout en continuant de répondre aux premières, une dernière... pour vraiment vous donner le loisir d'y répondre. Quels sont les mécanismes qui existent selon vous et qui montrent que c'est le moment de passer à ces applications-là?
Je disais tout à l'heure que nous avons irresponsabilisé et infantilisé les citoyens en leur donnant l'impression qu'ils ne payent rien parce qu'on fait pression sur les entreprises. La conséquence, c'est que nous n'avons pas suffisamment d'entreprises parce que simplement elles sont soumises à une très forte pression. Toute la pression fiscale que nous avons est basée sur les entreprises. Or, il faut libérer les entreprises pour être en mesure de créer des emplois et donner du revenu aux citoyens. Il faut recréer une nation intelligente qui marche. C'est maintenant qu'on est en train d'aller vers une nouvelle façon de gouverner, la gouvernance de proximité, qu'il faut être en mesure de repenser notre administration. Vous savez, notre administration est organisée sur le papier. On ne peut pas avoir 100 millions de personnes et ne pas leur donner un numéro d'identité unique qui peut leur permettre d'être redevable vis-à-vis de l'État, leur prendre chacun en fonction de ses revenus le peu d'argent qu'ils ont l'obligation de donner pour qu'en contrepartie, ils reçoivent le service public. Vous n'allez pas condamner une nation pour des contre-performances du passé. Des citoyens sérieux doivent être en mesure de regarder devant. Comment on fait pour créer une nation qui marche pour tout le monde? Pour qu'une nation marche pour tout le monde, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Et donc, je voudrais encore insister sur le fait que la digitalisation va permettre de mettre à nu toutes ces personnes qui se cachaient. Et donc, il est important qu'on se rende compte que l'administration doit se mettre à niveau, elle doit aller au plus près des citoyens, mais l'outil de base, c'est l'informatisation.
Merci Al-Kitenge, puisque vous avez parlé à ce moment-ci, nous allons ouvrir pour vous le standard de nos auditeurs et vous allez réagir à ce commentaire de Albert.
Albert Kolembela Bokomba depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. L'impôt est un élément important pour l'économie d'un État. Les sociétés et les personnes physiques doivent être frappées par l'impôt afin de doter au gouvernement les moyens pour atteindre ses objectifs. Dans un pays pauvre comme la RDC, le Parlement devrait être clair à cette matière, car la multiplicité des taxes et impôts décourage certains opérateurs économiques qui ont des chiffres d'affaires modestes mais qui dépassent plus. Étant donné que nous sommes un pays pauvre où les activités monétaires semblent être difficiles, à mon avis, le Parlement devrait limiter le nombre de taxes et impôts pour encourager l'entrepreneuriat et aussi spécifier selon les zones pour que cela puisse répondre aux revenus des habitants.
Al-Kitenge, réaction à Albert de Kisangani.
Albert confirme ce que je venais de dire tout à l'heure. Notre arsenal fiscal est une superposition des textes qui se contredisent et qui rendent la chose difficile. À l'occasion de la pandémie de Covid-19, nous aurions pu, et nous avons encore l'opportunité aujourd'hui, de remettre tout notre système à plat, créer un système fiscal simple, facile, facile à mettre en application, facile à contrôler, pour que nous soyons en mesure d'aller dans la logique de notre narratif, qui est celui de promouvoir l'entrepreneuriat, ça veut dire la création des entreprises, pour que celles-ci créent des richesses et qu'elles payent des individus, que ceux-ci dépensent dans l'économie et que notre économie croisse.
Merci.
Et une deuxième chose, et elle est très importante, et ce monsieur l'a si bien dit, c'est la cohérence de notre pays. Vous savez, si les citoyens contribuent, ils ont l'obligation de demander des comptes à ceux qui reçoivent l'argent. Aujourd'hui, on a infantilisé les citoyens. C'est pour ça que quand vous parlez à un Congolais, il vous parle de l'État. Pour lui, l'État est absurde. Pour lui, il ne saura même pas que l'État, c'est lui. Il a l'impression qu'il n'a aucun droit. Mais bien sûr, parce que de manière directe, il ne contribue pas à l'assiette de l'État. L'argent qu'on lui prend, on le lui prend à travers des entreprises. Et pour lui, c'est invisible. Je voudrais revenir sur quelque chose d'autre que j'ai dit tout à l'heure. Et c'est très important de s'assurer que nous avons une économie nationale. Ça veut dire qu'on relie l'économie rurale, qui est d'ailleurs majoritaire, avec l'économie urbaine. C'est le moment de pouvoir aller un peu plus loin de manière, j'ai envie de dire, ambitieuse.
Merci, Algui Tengue, analyste économique et stratège. Fabrice Ngabo, chercheur et consultant en fiscalité et finances. Pour vous, nous allons écouter réflexion de Justin de Bounia.
J'étais Calabria depuis la ville de Bounia dans la province de Touré. Nous saluons l'Assemblée nationale de commencer en tout cas à examiner le projet de loi portant sur l'impôt des sociétés et des revenus des personnes physiques. Mais notre inquiétude, c'est par rapport au détournement de nos autorités. Même si l'IGF existe, est-ce que les assujettis vont payer, en voyant en tout cas la mauvaise volonté de nos autorités congolaises?
Fabrice Ngabo, votre réaction?
Bon, en fait, l'auditeur, il pose une bonne question, mais qui rentre plutôt dans la sociologie de l'impôt, hein, par rapport à l'utilisation des institutions, des ressources qu'elle collecte auprès de la communauté. Mais moi, je voudrais aller un peu plus au-delà. Dans mon premier propos, j'ai tenu à vous démontrer que les projets du ministre n'étaient pas pertinents et que le gouvernement aurait pu utiliser ce temps pour analyser, examiner des projets plus pertinents qui devraient résoudre des problèmes qui sont concrets et réels dans la société, spécifiquement dans ce domaine de l'impôt. Alors, ça c'est un. De deux, vous savez, nous sommes un pays où plus de 70% de la population, ou disons des jeunes, vit sans emploi, c'est-à-dire dans le chômage. Alors, cette population importante qui vit sans emploi, elle aussi a l'obligation de contribuer à la couverture des dépenses publiques, d'où la nécessité du recouvrement de l'impôt personnel minimum dont je vous ai parlé, qui doit être acquitté par les autres personnes que le contributeur de l'impôt procède sur les rémunérations. Autrement dit, les gens qui n'ont pas d'emploi, qui ne payent pas ce qu'on appelle l'IPR, qui n'ont pas de salaire, mais qui vivent quand même, et bien qu'étant chômeurs, ils doivent acquitter aussi un impôt. Maintenant, moi je me dis, les parlementaires devraient plutôt, à mon avis, poser la question au ministre, pourquoi les citoyens, de manière générale, ne contribuent pas spécifiquement par rapport à cet impôt qui existe? Parce que depuis 2014, l'impôt a existé aussi à charge des expatriés qui sont sans emploi en RDC. Cet impôt-là a été supprimé. Mais il est resté l'impôt personnel minimum à charge des nationaux. Pourquoi cet impôt n'est pas perçu pour alimenter les caisses des ETD? Les ETD posent un problème sérieux de ressources financières et ces ETD ont besoin d'argent. La fameuse rétrocession, qui n'est même pas du reste constitutionnelle, n'arrive pas aux ETD. Encore que la caution pose plutôt un principe de retenue de 40% de recettes en caractère national. Pourquoi cette retenue n'est pas effective? Voilà les questions de fond, à mon avis,
que les parlementaires devraient proposer aux ministres.
Fabrice Ndabo,
on revient avec des réformes qui ne sont pas pertinentes. Vous savez, la première conséquence d'insertion dans le système fiscal, des réformes non pertinentes, c'est quoi? C'est la complexité qui crée la démotivation dans les chefs des citoyens, autrement dit, qui conduit à l'incivisme fiscal.
Merci. Alors, Fabrice Ndabo, merci. Député national, membre de la commission PAJ à l'Assemblée nationale, Paulin Odiane, vous aussi, nous allons écouter ensemble avec vous ce commentaire de Patrick.
C'est Patrick Mbouli Katama depuis Kolwezi dans la province du Lualaba. Il est vrai que le système fiscal congolais éprouve beaucoup de lacunes qui nécessitent de grandes réformes. Je crois que ce projet relatif à la fiscalité en RDC permettront à renflouer les caisses de l'État, qui est une bonne chose. Mais ce qui est inadmissible dans tout ça, c'est le manque de la redistribution équitable des richesses nationales. Ces richesses qui ne profitent qu'à une poignée d'individus, chose qui décourage les Congolais de s'acquitter de ses devoirs citoyens. Avoir la loi en la matière, c'est une bonne chose. Mais la traçabilité et la redistribution équitable des richesses nationales est un facteur qui booste le développement intégral d'un pays.
Paulin Odiane, votre travail de député, c'est notamment de définir un certain nombre de choses, mais aussi de veiller à ce que, notamment, le budget soit mieux ventilé, que les dépenses et les entrées puissent s'équilibrer et profiter à l'ensemble de la nation. Qu'avez-vous à répondre à cet auditeur qui s'inquiète de voir que souvent il n'y a pas bonne redistribution des richesses, mais aussi que l'usage et la ventilation des dépenses ne se fait pas comme il faut?
Je crois que notre compatriote a pleinement raison. Nous avons chaque fois à dire au ministre que, parce que le ministre nous a habitués avec des accords, des prêts signés de gauche à droite pour être ratifiés au niveau de l'Assemblée nationale. Donc il y a des textes, des accords ratifiés, mais qui n'ont pas d'impact même sur le terrain. Et mais si il y a même des textes ratifiés uniquement pour une seule zone depuis que nous sommes là. Les autres provinces n'en tirent pas profit. Donc pour que l'État, pour que la population ait confiance au système, il faut que le système soit d'abord fiable. Il faut que le système soit un système communautaire, pas un système boiteux. Mon compatriote Alkitenge, il est d'accord avec nous, malgré tout ce qu'il dit, que non, voilà, nous devons faire confiance à la réforme. Lui-même, il a dit, le texte que nous avons sur le plan fiscal, c'est une superposition de textes. Cela signifie qu'il est d'accord avec nous que la réforme initiée par les ministres n'est pas vraiment une réforme, parce que c'est tout simplement une goutte d'eau dans l'océan. Il faut une réforme approfondie. Je vous donne un exemple. Circuler dans la ville de Kinshasa, tous ces taximens ne respectent pas la police. Les taximens, les gens de taxibus, DCSS, ainsi de suite, ne respectent pas la police de roulage. Pourquoi? Parce que ces gens savent très bien que non, les véhicules qu'ils utilisent sont les véhicules des généraux, sont les véhicules des officiers militaires et les officiers de la police, et différents services spécialisés de l'État. Et raison pour laquelle ces gens ne respectent pas, c'est parce qu'ils ne payent même pas les impôts, ils ne payent pas les taxes. Voilà un exemple patent. Alkitenge dit que non, voilà, les députés ont refusé de payer l'impôt sur les revenus. Moi, la question est de savoir, le gouvernement, les membres du gouvernement payent l'impôt sur les revenus. Au niveau de la présidence, est-ce qu'on paye l'impôt sur les revenus? Et nous, est-ce que ces gens-là partagent leur traitement avec la population? Parce que les élus que nous sommes, moi je suis un député national, avec ce que je reçois, je construis l'école, je construis les écoles à la place de l'État, je construis les centres de santé à la place de l'État, l'État ne fait pas ce travail, nous sommes là pour assister la population avec les faits que nous recevons, mais les autres institutions font quoi avec leur traitement? Est-ce que ces gens supportent la population? Non. Donc on ne peut pas ici et dire que nous, voilà, nous sommes dans la réforme et nous allons bâtir la nation au moment où ceux qui viennent avec des réformes ne payent même pas les impôts. Est-ce que les ministres des Finances d'abord payent les impôts?
Merci, Paulin Odiane. Cette émission se poursuit, mais c'est aussi le moment d'arriver vers des conclusions. Dialogue entre Congolais ce mercredi. Nous voici donc arrivés au moment où nous devons dire l'essentiel en peu de mots pour essayer de ressortir au maximum ce que les auditeurs doivent retenir de nos échanges de ce soir. Alors, en très peu de mots, Paulin Odiane, député national, membre de la commission PAJ à l'Assemblée nationale, vous avez épinglé notamment le fait que l'environnement n'était pas favorable à attirer les populations à accepter des impôts et à les payer avec empressement. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut exactement faire pour résoudre d'abord ce problème de confiance et ensuite mettre les bonnes lois qui vont réellement rapporter ce qu'il faut à la République, les impôts nécessaires au développement?
Donc, en un mot, l'État doit être un pouvoir qui travaille pour l'intérêt général. Donc, il faut être une nation à même de travailler pour le peuple congolais. Et aspirer confiance de cette population signifie tout simplement que le pouvoir qui est là, c'est un pouvoir à qui nous faisons confiance, à qui nous avons donné le mandat de travailler pour nous tous, et non pas pour une partie, une catégorie d'individus.
Merci Paulin Odiane, député national, membre de la commission PAJ à l'Assemblée nationale. Fabrice Ngabo, chercheur et consultant en fiscalité et finances, nous avons tous plus ou moins ressorti la problématique actuelle avec des questions de perception et de paiement des impôts en République démocratique du Congo. Le citoyen congolais a généralement beaucoup de réticence à payer toute forme des taxes, y compris les impôts. Comment, selon vous, on peut rétablir cette forme de confiance et comment régler le problème que vous avez soulevé pendant toute l'émission? Bien identifier le problème des impôts, aller étape par étape vers les lois qui favorise justement l'imposition et la perception de tous les impôts dont la République démocratique du Congo a besoin pour son développement.
D'accord, merci beaucoup. Pour conclure, je note, comme je l'avais dit, que ces textes que le ministre a apportés au Parlement n'ont pas été pertinents, et comme ils n'ont pas été pertinents, je pense que les honorables députés, les sénateurs, les parlementaires, ils ne doivent pas s'impliquer dans cet élan. Ils doivent plutôt utiliser le temps de façon rationnelle, de façon utile. Il y a des problèmes plus importants auxquels on peut consacrer le temps plutôt que de rester dans des réformes qui ne sont pas pertinentes, qui n'apportent aucune solution aux problèmes connus par la communauté. Alors, pour rétablir cette confiance de la population envers les dirigeants, il faut simplement résoudre l'injustice fiscale. L'injustice fiscale, c'est entre autres le fait que on repose toute la charge fiscale, tout le poids fiscal sur les quelques entreprises que nous avons, et que ceux qui initient ces textes-là, notamment les parlementaires, les ministres, on l'a même dit, eux ne payent presque pas. Si on fait une étude aujourd'hui pour évaluer la contribution des membres du gouvernement au trésor public, peut-être ça peut être scandaleux le résultat.
Merci Fabrice Ngabo, vous l'avez déjà dit plusieurs fois. Et enfin, Alki Tenge, analyste économique et stratège, vous avez planté un décor plutôt optimiste. Vous pensez que en 2023 et surtout en 2024, l'application de ces nouvelles réformes pourrait être une mesure extrêmement salutaire?
Je pense simplement que les innovations, la transparence et la bonne gouvernance vont engendrer la redevabilité. Mais pour ça, il faut des citoyens éveillés, pas des citoyens endormis. Et les citoyens éveillés, c'est l'intelligence et l'information. Mais pour que nous soyons en mesure d'avoir l'information, il faut digitaliser le système pour que l'information soit à la disposition de tout le monde. Il nous faut des services publics modernes. C'est ce qui va permettre de mobiliser les citoyens à l'impôt.
Merci Alki Tenge, merci à tous les trois d'ailleurs, messieurs, pour votre participation à cette émission. Mimi Kindou et Guy Maté m'ont aidé à préparer cette émission. Donna Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais ce soir, c'est terminé. Merci de votre attention. Au revoir.